Depuis 1991, mon invité Bernard Werber publie en moyenne un livre par année. Son plus célèbre, vous l'avez peut-être lu, Les Fourmis, qui est une trilogie qui s'est vendue à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Et là, Bernard Werber vient de publier aux éditions Albin Michel Le Miroir de Cassandre, l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui a le don d'entrevoir le futur. On va parler bien sûr un peu du mythe de Cassandre sur lequel ce livre est basé. Mais il faut que je vous dise que d'abord, c'est passionnant comme histoire, le Miroir de Cassandre. C'est un roman. Et comme toutes les œuvres d'ailleurs de Bernard Werber, elle pourrait se vendre au poids ou au nombre de pages, parce que celui-là a 650 pages à peu près, et il vaut son poids. Bernard Werber, merci d'être là. Comment vous faites? D'abord, vous êtes très dur pour les animateurs qui doivent parler lire de ça. Livres, parce que hier, je me suis tapé au moins la moitié. Je dirais pas que je l'ai tout lu. Ça serait mentir, mais...
Je vais vous rassurer, il a réduit encore la cuisson. En général, je fais 1000 pages pour avoir 650. Donc, j'écrème, j'enlève tout ce qui est pas indispensable pour avoir vraiment, pour serrer, que chaque phrase soit indispensable au mot près et que ça fasse avancer l'action.
C'est fou, vous aviez écrit 1000 pages.
Un peu plus pour celui-là, mais je fais que ça comme métier. Ouais. C'est un très joli métier, mais c'est un métier où j'ai l'impression que je ne fais que m'amuser, qui consiste à raconter des histoires, inventer des personnages et les bouger comme des petites marionnettes. Et il y a des moments, je suis pris par l'action et je me laisse aller. Puis au moment où je m'arrête, où je mets le mot fin, je m'aperçois qu'en effet, il y a déjà 1100 ou 1200 pages. Alors je recommence tout et je coupe et je fais une version plus courte.
Et vous dites d'ailleurs que vous avez des tonnes de livres dans vos tiroirs, des livres qui n'ont pas été publiés.
Pas des tonnes. En
pas
général.
Mal. Vous en avez combien? Vous pourriez publier combien de livres?
Je vais raconter le secret, c'est qu'en fait, chaque année, j'en fais deux. Ouais. Et il y en a un que je préfère à l'autre. Donc, pour chacun de mes livres qui sort, il y a un petit frère qui restait dans un tiroir, qui sortira peut-être un jour, et qui est inachevé. Donc il y a un 80% de livres quelque part. C'est juste au moment où j'avais le choix entre les deux, j'en ai choisi un. Donc celui-ci, un petit frère inachevé.
Dont l'histoire est complètement différente
Alors déjà, pour faire celui-là, je l'ai réécrit à peu près une cinquantaine de fois, du début à la fin, entièrement avec notre histoire, une autre intrigue et tout, pour trouver la bonne intrigue.
Non.
Mais sinon, j'ai un autre roman qui parle d'un autre sujet, qui est à côté, qui lui ne sera jamais publié.
Donc vous faites plusieurs versions de votre livre avant qu'il soit publié.
Oui, oui. Et c'est pas juste du retravail au traitement texte. C'est-à-dire, une fois que j'ai fini une version, je ne la regarde plus et je redémarre sur le souvenir de cette version une autre histoire avec les mêmes héros, pas forcément la même intrigue, souvent la même chute. Voilà, donc j'ai le même début, la même fin, les mêmes héros, mais j'ai pas du tout la même histoire. Et je teste des formules. Vous savez, c'est un peu comme ce jeu, le Mastermind.
Ouais.
Vous avez les petits picots et vous testez plusieurs manières de le faire. Et après, vous choisissez la meilleure formule.
Mais à chaque fois, c'est 1000 pages?
À chaque fois, c'est 1000 pages. Mais vous savez, ça fait 20 ans que je fais ça. Maintenant, pour moi, c'est assez facile, c'est assez jouissif.
D'écrire comme ça, mais alors donc vous, si je vous parle du syndrome de la page blanche, ça vous concerne pas du tout?
Non, pas du tout.
Tous ces auteurs qui disent m'installer, c'est pénible, il faut que je me mette dans un état d'esprit, je regarde par la fenêtre, là ça devient poétique, romantique et douloureux, c'est-à-dire qu'ils voient la page blanche puis ils se disent, vous de toute façon c'est pas papier crayon.
Non, non.
Hein, d'abord,
c'est
vous êtes complètement informatisé.
Oui, parce que ça va, parce qu'au bout d'un moment, quand on s'est tapé avec l'éditoire, tout ce qu'on pense apparaît direct à l'écran de manière pratiquement instantanée. C'est-à-dire, je vois les scènes du film, je vois l'action, je vois les personnages, et mes doigts dansent sur le clavier, et tout apparaît, tout se crée au fur et à mesure, et c'est en ça que c'est très jouissif. Et c'est en ça que le traitement texte est l'outil moderne qui permet d'écrire différemment. Alors, par moment, il faut savoir se retenir soi-même, parce que sinon, il y a une telle galopade des mots qu'on sait s'emporter. Donc, je galope, je m'arrête, je réfléchis, je regarde, je redémarre, mais l'ensemble est assez rapide, jouissif, ludique. Et c'est parce que c'est rapide, jouissif et ludique à l'écriture que ça peut l'être après à la lecture.
Mais... Et puis ça vous permet d'être plus rapide aussi, il y a une question de rapidité. Donc. Déjà en 91, Les Fourmis, vous l'avez écrit sur Word. Puis je pense qu'à l'époque, les gens vous voyaient comme une espèce d'énergumène parce que ces livres déjà sur informatique.
Oui, j'étais invité dans des débats où je devais défendre les ordinateurs en expliquant que c'est pas parce qu'on utilise un ordinateur que l'ordinateur écrit le livre à notre place. Et les gens diabolisaient l'informatique. Et donc on mettait en face quelqu'un qui expliquait le bonheur d'écrire au stylo sur du parchemin et le bruit du stylo qui gratte. Et moi je devais expliquer, attendez, mais vous perdez beaucoup de temps et votre pensée est ralentie par la gestuelle. Même s'il y a un plaisir à la calligraphie, il y a un plaisir à la rapidité. Et je vous en parle d'autant plus facilement que je fais la calligraphie, que je fais de la peinture, je fais du dessin, donc le mouvement du poignet sur la toile, je sais ce que c'est. Mais je trouve que faire jaillir les idées, qu'elles tout de suite se cristallisent en histoire, en personnage, c'est vraiment extraordinaire et ça participe au plaisir du lecteur, qui est quand même la première préoccupation de l'auteur, c'est de faire un monde dans lequel le lecteur va vraiment s'amuser, il va être pris tout de suite et emporté par l'histoire.
Et le monde de Bernard Werber, c'est un monde aussi de science-fiction, un monde futuriste et tout. C'est pour ça que j'aime vous entendre sur toutes les technologies de l'information, sur justement...
Pas le dernier livre. Pas le miroir de
Cassandre. Pas le dernier livre, mais il y a quand même cette montre un peu spéciale.
Il y a la montre qui est une montre à probabilité, qui indique aux gens la probabilité de mourir dans les 5 secondes.
C'est génial.
Mais ce n'est pas de la science-fiction. La probabilité, on peut calculer une probabilité qu'une météorite tombe actuellement sur ce studio, c'est un chiffre. Il va être probablement très faible, mais il existe. On peut calculer la probabilité. Ce n'est pas du fantastique, ce n'est pas la science-fiction. C'est juste un outil nouveau que j'ai inventé qui est la probabilité de mourir. Mais en fait, ça existe par exemple, comme je le raconte dans le livre, pour les assurances-vie.
Ouais.
Quand vous prenez une assurance-vie, on calcule la probabilité que vous aurez de mourir dans les 5 ans à venir. Donc j'ai juste réduit ce temps. Je suis passé de 5 ans à 5 secondes.
Et ça donne une histoire assez... assez incroyable. Mais je vous amène sur ce chemin-là parce que justement, vous êtes d'abord arrivé en studio. On parlait du iPhone tout à l'heure avant vous. Et là, vous êtes arrivé, vous avez votre iPhone. Vous avez un site internet à vous. Vous avez d'ailleurs un arbre du futur. Vous avez
l'arbre des possibles.
L'arbre des possibles. Vous avez donc rallié toute une communauté aussi d'internautes sur votre projet. Parlez-moi de l'arbre des possibles.
Ben, je me suis dit, pour que le futur soit meilleur, il faut qu'on l'imagine meilleur maintenant. Plutôt que de se désespérer en regardant les actualités qui nous annoncent le réchauffement climatique, les guerres, la pollution, tout ça, je me suis dit, plutôt que de se lamenter qu'on va vers des problèmes, inventons les solutions. Tout ce que nous avons de bien maintenant a été inventé par nos ancêtres dans le passé. Donc pour que nos petits-enfants aient un joli monde, il faut l'inventer maintenant. Et c'est un problème d'imagination et d'idées. Donc j'ai créé un site qui s'appelle... l'arbredespossibles.com ou arbredespossibles.com, et sur ce site, tous les gens qui ont des idées viennent déposer leurs feuilles qui s'inscrivent dans un arbre, dans le court, le moyen, le long terme, et c'est une sorte d'arborescence où on voit tous les futurs possibles. Nous avons 2 millions de personnes qui sont passées sur le site et 6 000 qui ont laissé des scénarios.
C'est incroyable. Et qui gère ça?
C'est un ami, c'est Sylvain Timsit, qui vit à Bordeaux, en France, et qui fait que ça. Et il trie, on doit recevoir à peu près 50 000 scénarios, et lui, il en a gardé 6 000 qui semblaient vraiment intéressants. Il les a connectés sous forme de branches, et l'ensemble est comme ce qu'on appelle un Web 2, c'est-à-dire un endroit où les gens se retrouvent. On pourrait comparer ça aussi à un Wikipédia de la prospective, c'est-à-dire un endroit qui est créé par les internautes pour... sur le thème de la prospective, de l'imagination sur le futur.
Et là, on parle de technologie, on parle de politique, d'économie, il y a les gens ont plein d'idées, finalement.
De la mode, des mini-jupes, des coiffures.
Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces suggestions des gens?
Je ne les lis pas précisément pour ne pas être influencé. Moi, je voulais que la chose existe, et c'est Sylvain, donc mon ami.
Vous donnez une plateforme.
Voilà,
vous
je donne la plateforme, je donne l'idée. De temps en temps, il me dit, tu vois, ces temps-ci, c'est plutôt optimiste. Ces temps-ci, ils sont en train de parler de 2012 et des Mayas. Il me tient au courant de l'ensemble, mais je veux pas rentrer dedans pour ne pas les gêner ou pas les influencer.
Ouais. Donc, vous y allez très peu?
Je vais voir de loin. Je vais, oui, j'y vais souvent, mais je reste un peu à distance. Comme si je regardais un arbre, en fait.
Ouais.
Je vais pas m'approcher de chaque feuille.
On va redonner ce titre, ce site, arbredespossibles.com. Donc, un arbre dont les branches représentent toutes les directions que peut prendre notre avenir. On va s'arrêter ici. On revient tout de suite après la pause avec l'auteur Bernard Werber, qui va nous parler justement de l'avenir. Alors oui, je suis une chanceuse, beaucoup d'auditeurs nous le disent. Vous êtes chanceuse, vous avez l'auteur français Bernard Werber qui a écrit tous ces... D'abord, c'est un auteur de best-seller. Hein. Juste dire ça, Bernard Werber, je pense que je suis pas dans l'erreur. On peut dire que vous, quand vous écrivez, c'est pour vendre des livres. Vous en avez vendu des millions. En tout cas, c'est pas l'idée. Vous, c'est ce qui se passe.
Non, je suis un artisan qui essaie de faire le livre le mieux possible et qui amuse le plus les gens. Après, le fait que ça touche un vaste public, ça me plaît, mais je ne pense pas best-seller. Le mot best-seller,
c'est l'air. Mais vous avez grimacé, vous n'aimez pas ça.
Mais il y a le côté vente. Non. Moi, j'ai l'impression que je suis un artisan. Je me vois avec mes petits personnages, mes petites situations. Mon souci, c'est pourvu que l'éditeur ne décroche pas, enfin, que l'auteur ne décroche pas et que le lecteur ne décroche pas. Excusez-moi, j'ai déjà les pensées trop loin. Et c'est mon unique souci et je me vois pas du tout en train de dire pourvu que ça se vende, que ça soit un truc, un supermarché. Ouais. C'est tellement loin de ma pensée. Vous savez, même quand j'ai écrit les livres, mon objectif était d'être publié.
Ouais.
Je me suis jamais dit j'aimerais qu'on trouve mes tas de livres partout dans tous les magasins. Non, je suis dans mon petit bureau avec mon petit ordinateur en train de faire mes petits...
Votre bureau que vous appelez votre laboratoire.
Ouais.
Mais quand même, on m'a raconté l'anecdote suivante et vous me direz si c'est vrai, mais ce qui vous a donné, parce que vous étiez d'abord un journaliste scientifique, voilà. Hein, vous avez collaboré au Nouvel Observateur aussi, vous avez écrit dans beaucoup de magazines et tout, et donc vous vouliez être publié, vous vouliez écrire donc, et vous êtes dit... Après, je crois, c'est Frédéric Dard qui avait...
Oui.
Vous aviez lu ça dans le Paris Match, je pense
j'avais vu un interview dans Paris Match de Frédéric Dard où il disait, pour être un vrai écrivain, il faut écrire tous les matins de 8h à 12h30. Je l'ai pris au mot et j'avais donc 16 ans et j'ai mis 12 ans à écrire Les Fourmis. Donc, j'ai appliqué cette règle, mais depuis l'âge de 16 ans, j'en ai beaucoup plus maintenant, tous les matins, j'écris. 8h, 12h30, c'est l'idéal, mais en général, je fais au moins 2h.
Mais même quand vous n'avez pas envie, quand vous...
Y a des matins, toujours envie.
Vous avez toujours envie?
J'ai toujours envie.
Vous n'êtes pas des gens en disant, non, je vais me prendre un café, je vais aller sur Internet.
Parce que pour moi, c'est pas du travail. À la limite, j'ai dit une fois à mon éditeur, à la limite, je serais presque prêt à payer pour continuer à faire ce métier tellement qu'il m'amuse.
Oh, il a dû vous aimer, votre éditeur.
Il m'a dit, écoutez, c'est parfait.
Ouais.
Mais la récompense de ma vie, c'est l'écriture elle-même.
Ouais.
C'est-à-dire, j'écris pas pour m'acheter une belle bagnole, j'ai rien à foutre des voitures, j'écris pour le plaisir d'écrire. Comme
les
chevaux qui galopent. Vous savez, un cheval, quand il galope pas pour gagner les courses, il galope pour le plaisir de sentir ses muscles se déployer dans la course.
Écoutez, Bernard Werber, vous êtes un des auteurs francophones les plus lus au monde. Vous êtes un millionnaire de la littérature, et là, c'est ceux qui disent que vous écrivez justement pour vendre vont trouver que le mot est trop fort, mais vous êtes véritablement riche de tous ces livres que vous avez vendus. Quand on vend 15 millions, 20 millions d'exemplaires dans le monde...
Bon, que répondre? Oui.
Mais pour moi, vous en faites quoi? Vous payez pas des gros trips coûteux, non?
Rien du tout.
Aller dans la Lune, ça vous tente pas, non? Aller dans l'espace?
Pour moi, le fait que mes livres se vendent bien, ça veut dire que je pouvais en faire d'autres. Et surtout, je vais pas être obligé de faire un autre métier dans lequel je m'amuse moins, et je m'amusais moins comme journaliste scientifique, parce qu'il y avait toute une hiérarchie autour, et je perdais une énergie énorme dans des trucs de diplomatie pour passer mes articles. Tandis que là, c'est un vrai plaisir, c'est que je fais le métier qui me plaît, je rencontre mes lecteurs, ma petite Cassandre du miroir de Cassandre, la faire vivre, la créer, l'agiter, la faire parler, lui faire arriver des aventures, c'est mon grand plaisir. En fait, c'est une forme de schizophrénie. Je me réalise entièrement dans ma passion. Alors, je sais pas, les gens sont habitués à considérer la notion de travail comme une punition, comme une douleur. Moi, les vacances, ça m'intéresse pas. Ou en vacances, ce qui m'intéresse, c'est amener mon ordinateur pour travailler. Le bonheur, c'est écrire. Et surtout quand je trouve une bonne scène, un truc qui va marcher, qui va surprendre tout le monde, là, pour moi, c'est la joie de la journée.
Ouais.
Mais ça semble bizarre parce que tout le monde fait du travail en se disant, vous savez, le mot travail vient de trépied, c'est les trépieds où on suspend des esclaves pour les punir. Donc, le mot travail transporte déjà une notion de punition, de douleur. Et moi, c'est ma passion, c'est ma joie. Depuis que je suis petit, je raconte des histoires qui amusent les autres. Je ne fais que, le terme, c'est me réaliser. Je me réalise dans ça. Et après, vu que j'ai pas besoin d'une voiture de course, j'ai pas besoin d'un grand appart, j'ai juste comme privilège d'avoir un petit appart à Paris et une petite smart, et ça me suffit et ça va. Et pour le reste, continuer à faire le métier qui me plaît, c'est la seule chose qui m'amuse.
Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? Vous allez le donner pour à l'humanité, pour la vision de l'avenir? Non.
Il y a pas cet argent.
Vous êtes en France, vous êtes imposé.
Voilà, on est imposé à 60%, c'est-à-dire 50% plus des tas d'autres trucs. En fait, au bout d'un moment, je sais, chaque fois que je gagne un euro, il y en a plus de la moitié qui part à l'État. Mais je m'en fous. À la limite, ça me fait plaisir d'aider le système. Et je suis pas dans une notion américaine des best-sellers américains. Je suis plutôt dans quelque chose qui est... j'ai une œuvre d'art à réaliser, j'ai une œuvre à réaliser, et puis j'ai une sorte de divertissement à procurer aux gens, et il faut que ce divertissement leur apprenne des choses. Quand j'écris, je fais pas juste qu'écrire une histoire pour que les gens...
Non, on voit que vous avez fait de la recherche. Ouais.
Non, mais il y a aussi cette idée qu'ils apprennent des choses qu'ils ne savaient pas avant.
Ouais.
Qu'ils découvrent, par exemple, dans celui-là... Je parle des Mayas au hasard, mais je parle de la probabilité, je parle aussi des mythes grecs, notamment le mythe de Cassandre, c'est pour ça que mon
qui avait le don véritablement
de voir le futur
oui.
Mais qui avait la malédiction de ne pas être cru. Et puis je parle aussi par exemple de ces peuples qui vivent encore actuellement dans les dépotoirs et de la culture des exclus, de cette culture, sous-culture des exclus. Pour tout ça, je suis allé sur le terrain, je suis allé voir, et j'ai essayé de faire vivre ça, et je pense que mes lecteurs, quand ils liront Le Miroir de Cassandre, ils vont découvrir tout ça, ils vont apprendre tout ça.
Ouais,
et c'est ça qui m'amuse.
Ouais. Mais à chaque phrase, quand vous parlez, dès le début du roman, quand vous parlez des noms, par exemple, l'influence des noms.
La programmation
des prénoms. Vous vous êtes intéressé au vôtre? Bernard?
Bernard, ça signifie cœur d'ours, ça me va. Mon héroïne s'appelle Cassandre, donc elle va connaître la vie de Cassandre, et son ennemi, l'un des protagonistes s'appelle Philippe, qui veut dire qui aime les chevaux, et il va en effet focaliser sa vie sur son amour des chevaux. Il y a aussi le prénom Véronique, un autre personnage qui signifie la vraie image.
Ouais.
Je crois que c'est intéressant pour chaque être humain.
Mais vous y croyez, ça?
C'est pas un problème de croyance, c'est un problème de programmation que nous donnent nos parents. C'est comment votre prénom, vous?
Isabelle.
Alors là, j'ai rien tout de suite sur Isabelle, ça doit être...
assez complexe.
Ça vient d'où? Bah tiens, voilà, ça vient d'où, Isabelle?
Je sais pas. Il paraît que c'est espagnol.
Bah oui, Isabelle la catholique. Non, je connais pas tous les prénoms, mais des prénoms comme Emmanuel, par exemple, signifie Dieu, dédié à Dieu, ou tous les prénoms, elles, sont d'origine hébreu.
Aimé de Dieu, ouais.
Voilà.
Ouais. Mais il y a ça, il y a les prénoms, il y a les chiffres, il y a les animaux aussi dans votre œuvre.
Ouais.
Il y a des la signification est importante, et le symbole aussi. Vous parlez de 2012, vous parlez beaucoup d'avenir.
Des rêves.
Oui,
des réincarnations. Mon héroïne a cette particularité, elle a oublié son passé personnel, mais par contre, elle se rappelle de toutes ses vies précédentes. Et quand elle est dans l'action, elle se reconnecte aux personnes de ses vies précédentes qui ont connu les choses extraordinaires. Et là, elle va se reconnecter à l'homme des cavernes qui est encore en elle. Et parce que tous nos ancêtres sont en nous. C'est le croisement de milliers de gens qui ont donné notre définition génétique et qui font que je suis comme ça et que vous, Isabelle, vous êtes comme ça. C'est tous ces gens qui se sont croisés. Et on peut se reconnecter à leur mémoire puisqu'elle est inscrite dans notre cellule. En tout cas, mon héroïne, Cassandre, y arrive. Et c'est un accès à une banque de données formidable.
Fabuleux. Un peu. Et puis, on reboucle la boucle, Bernard Werber, avec Internet, parce que vous dites, je suis allé sur place et tout. Il y a aussi des recherches que vous faites grâce à la toile. Je pense que sur certains de vos livres, par exemple, vous dites, j'aurais pu y aller, mais j'ai pas eu besoin d'y aller parce
exactement.
Que j'y étais de toute façon par le biais d'Internet. J'ai vu grâce à Google par exemple.
Exactement. J'utilise Google Earth pour faire maintenant certains de mes repérages dans des coins où j'ai besoin de voir rapidement tous les alentours. Si je devais y aller en voiture et commencer à travailler en étoile pour repérer la disposition des bâtiments, des rues, ça me prendrait beaucoup de temps. Alors maintenant, j'utilise Google pour flasher sur toutes les maisons, sur toutes les rues, voir le parcours de mes personnages. Et ça, c'est vrai que c'est juste utiliser un outil de son époque. Comme à l'époque des cavernes, le premier type qui a utilisé un galet taillé a dû impressionner les autres avec cet outil, mais c'était l'outil de son époque. Comme Mozart, je pense, de nos jours, utiliserait des synthétiseurs.
Ouais.
Nous vivons une époque...
Vous percevez comme quelqu'un, comme un futuriste, comme un visionnaire, un peu, d'une certaine façon?
J'essaie déjà d'être bien dans le présent et de bénéficier, donc, de, comme je disais, de tous les outils du présent. Maintenant, j'utilise ces outils pour regarder au loin et voir comment le monde va évoluer. Je crois que les politiciens, les prêtres, les philosophes, les économistes, plus personne n'ose parler du futur. Mmh. Alors qu'il ne reste plus qu'à nous, auteurs de science-fiction ou auteurs de fantastique, de faire ce travail, d'avertir les gens des problèmes qui vont venir et de trouver des solutions et de proposer des outils pour ne pas subir le futur, mais au contraire le gérer comme une vague sur laquelle nous allons surfer. Et j'aime bien cette idée de réhabiliter le futur pour ne plus en avoir peur et d'en parler.
Vous avez des détracteurs qui disent de toute façon Werber il nous propose sorte de théories farfelues, il essaye de nous faire croire des choses. Vous essayez pas de faire croire aux gens. Vous-même, est-ce que vous croyez farfelues, à quoi, par exemple, vous êtes gros.
Alors, les théories farfelues, j'assume, puisque c'est des théories issues de mon imagination.
Voilà.
Et je revendique juste le fait d'utiliser mon imaginaire pour trouver des idées que les autres n'ont pas eues avant.
Mais croyez-vous qu'il va y arriver une catastrophe, peut-être pas en 2012, mais éventuellement?
Étant donné que je suis romancier, ex-journaliste scientifique, ouais. Mon but n'est pas d'être croyant, mon but est d'être agnostique, c'est-à-dire je ne sais pas, je me renseigne et je donne des informations à mes lecteurs qui eux se font la position, choisissent la position qu'ils veulent, soit ils croient au meilleur, soit ils croient au pire, soit ils vivent dans la peur, soit ils vivent dans l'espoir. C'est eux qui vont dans le miroir, mon miroir de Cassandre, se voir eux-mêmes. Maintenant, non, moi je ne suis pas croyant. Le croyant, c'est celui qui sait que Dieu existe ou celui qui sait que Dieu n'existe pas. Dans les deux cas, ça me semble une prétention. Moi, Dieu, je l'ai pas rencontré et je vois pas pourquoi je pourrais dire qu'il n'existe pas non plus. J'en sais rien, donc je me renseigne, je lis les textes anciens. Je regarde le ciel, je regarde les étoiles, peut-être qu'il va apparaître.
Quelle est la probabilité de rencontrer
Dieu ? Elle est faible. Mais pourquoi pas ? Elle est pas nulle. Et je garde surtout ma capacité d'émerveillement, de curiosité. Je crois que toute personne qui a la prétention de savoir ou qui dit je crois, donc je sais, est une personne qui se ferme. Qui perd la possibilité d'être émerveillé, de découvrir des choses nouvelles. C'est peut-être ça qui est formidable dans la capacité à rester enfant. L'enfant, c'est celui qui s'émerveille et qui apprend. Et l'adulte, c'est celui qui sait et qui donne des leçons aux autres. Donc j'espère qu'à travers mes livres, les gens retrouveront leur capacité d'émerveillement, leur capacité de rester des enfants, avec tout ce que ça a de positif, à savoir être propre, être neuf et être ne pas être blasé, mais être curieux du monde.
Ouais. Bernard Werber, on s'arrête ici et on poursuit avec vous tout de suite après la pause. Je suis en compagnie de l'écrivain Bernard Werber qui vient de publier chez Albin Michel Le miroir de Cassandre. Parlons un petit peu du mythe de Cassandre, justement, parce que c'était très intéressant, Bernard Werber, de parler de ces mythes, de la mythologie, entre autres. Vous êtes inspiré de la mythologie grecque. Cassandre, donc, il y a tout un mythe autour d'elle, la plus belle fille du roi.
La fille du roi Priam.
Oui, la plus belle, paraît-il.
Et Apollon, qui était le dieu de la beauté, descend et se dit, oh là, celle-là, elle est mignonne, elle m'intéresse. Donc, je lui fais un petit cadeau, je lui donne le don de vision du futur. Il revient un peu plus tard, il réclame de faire l'amour avec elle, et elle veut pas. Et il dit, ah bon, tu me prends comme ça, eh ben, je vais pas t'enlever ton pouvoir de vision du futur, parce que une fois que c'est donné, c'est un coup sur le nez. Il a dû le lire en grec, c'était pas exactement ces termes-là, mais c'est l'idée. Cependant, je vais t'ajouter une malédiction, c'est que quand tu parleras, personne ne te croira. Et elle va dire, je sens que les Grecs vont arriver et nous casser les pieds, parce qu'ils étaient Troyens. Je sens que les Grecs vont nous faire un cadeau empoisonné qu'il faut refuser. Et chaque fois, on lui dira, mais tais-toi, tu nous portes malheur, tais-toi.
Le cheval de Troie.
Voilà, le cheval de Troie. Et elle dira, attention, il va y avoir des problèmes avec ce cheval, personne ne l'a écouté. Et du coup, tous les Troyens seront détruits et il n'y aura qu'une seule survivante, c'est Cassandre, qui dira tout le temps pourquoi ils m'ont pas écouté, pourquoi ils m'ont pas écouté. Et mon héroïne, qui est une Cassandre moderne qui vit de nos jours, elle voit l'ancienne Cassandre qui lui dit, vas-y, essaie de faire mieux, tu vas voir, c'est des couillons, tu leur dis la vérité, ils l'écoutent pas, ils préfèrent écouter les mensonges plutôt que la vérité parce que les mensonges c'est plus facile à intégrer que la vérité.
Ouais.
Et elle ne va trouver finalement d'aide qu'au milieu des clochards parce que les clochards eux ne sont pas en jugement, ils sont juste dans tiens entre exclus et dans nous. Et elle va tomber sur un groupe de clochards particulièrement sympathiques qui eux auront le courage que les bourgeois n'ont pas dans le roman, à savoir celui d'arrêter les terroristes et quand il y a une bombe de désamorcer les bombes. Parce qu'il y a aussi cette autre idée que va découvrir mon héroïne Cassandre, c'est qu'en fait, plus personne ne veut s'occuper des terroristes et des attentats parce que c'est trop compliqué. Mmh. Donc on considère que c'est un peu comme la foudre, ça tombe à un endroit et puis on met ça dans les assurances.
Pour vivre avec,
on vit avec et, ouais. Et on s'habitue à ça comme une sorte de calamité et personne ne réagit. Et quand elle dit ça va péter à tel endroit, il faut désamorcer la bombe, même la police veut pas y aller parce qu'ils disent écoutez, finalement ça complique plus que ça n'arrange de vouloir embêter ces pauvres terroristes. Et voilà.
Et tout le monde a les conflits d'intérêts, mais dans le fond, ce que vous venez de décrire, c'est un jugement sur la société dans laquelle on vit finalement.
Qui est une société de lâcheté de plus en plus répandue et ensuite de mépris des victimes. On considère que les victimes, si ça leur est tombé dessus, elles devaient être quelque part responsables. Ouais. Et c'est bizarre ce glissement de valeur. On trouve tout le temps des excuses aux terroristes et on trouve tout le temps des reproches à faire aux victimes. Et je crois que c'est un air du temps un peu bizarre, et qu'il faut quand même qu'il y ait des gens un peu courageux qui disent « Attendez, c'est pas normal d'aller tuer son prochain, c'est pas normal de mettre une bombe dans le métro, dans le World Trade Center, au milieu de pauvres gens qui demandent rien, et puis juste pour des causes religieuses, au nom pour plaire à Dieu, ça m'a l'air bizarre. Enfin, si ce Dieu se prend du plaisir à voir les gens mourir, ça me semble un Dieu étrange. Moi, j'imagine plutôt un Dieu d'amour qui nous souhaite du bien, qui nous souhaite de vivre, pas qui nous souhaite la mort. Et mon héroïne perçoit tout ça, essaie de communiquer dessus, et s'aperçoit que c'est très difficile, parce que on vit un monde où toutes les valeurs sont inversées, tout est à l'envers, tout est bizarre.
Et on a développé beaucoup de symptômes comme la peur, l'angoisse, la déprime, la dépression.
La lâcheté surtout.
Ouais, la lâcheté, ouais.
On demande aux gens de se taire et de regarder ça à la télé en se disant, oh là là, c'est affreux, repasse-moi du pinard, repasse-moi de la bière.
Oui, parce que tant que ça ne me touche pas, je suis bien.
Voilà. Ouais. Et on oublie. Un peu comme a dit un troupeau aveugle qui avance vers le précipice, et quand il y a des gens qui disent « Attendez, on va vers le précipice », ils disent « Mais qu'on les fasse taire, ils nous compliquent la vie ». Parce qu'il y a une fascination pour le pire et une sorte de résignation. Mmh. Voilà, j'ai l'impression que les sociétés occidentales sont en train de se résigner par rapport à la violence, par rapport au terrorisme, et ont perdu leur capacité de réaction et de défense des valeurs de vie et des valeurs de démocratie qui sont le plus grand trésor qu'on a. On a inventé ça, on a évolué, on a monté notre niveau de conscience pour que les gens soient libres, vivants et heureux. Il faut résister à ces attaques.
Est-ce qu'il y a un peu de Cassandre en vous? C'est-à-dire, avez-vous l'impression parfois que quand vous écrivez, que vous suggérez quand même certaines choses dans vos romans, qui sont des romans, mais tout de même, on suggère toujours quelque chose un peu comme auteur, comme écrivain. Forcément, on le fait pas que pour le plaisir personnel d'écrire, pour ce plaisir égoïste. On espère quand même que les gens, nos lecteurs, vont en retenir une petite parcelle de quelque chose qu'ils vont pouvoir après intégrer dans leur vie. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de Cassandre en vous? C'est-à-dire, vous écrivez depuis des années, et puis finalement, vous avez l'impression qu'on vous écoute pas, parce que ce que vous dites, qui est des visions futures ou visions point, il y a du vrai là-dedans, Bernard Werber. Pour celui qui vous sait, qui veut bien y entendre.
On a suivi quelques-unes de mes idées. J'avais lancé dans les fourmis l'idée de communiquer avec les insectes. Il y a des machines qui ont réellement été créées. En 1998, la première scène de l'Empire des Anges, c'est quelqu'un qui est dans un building qui voit arriver un Boeing direct qui arrive dessus. Je dirais pas que j'avais prévu, mais en tout cas, la scène était déjà dans mon roman 3 ans avant. J'ai l'impression que je sens des choses, mais que n'importe qui peut les sentir. Ce qu'il y a, c'est que mon métier de romancier m'autorise à en parler d'une manière légère, sans dire ça va arriver, c'est grave, c'est terrible, ayez peur. Juste, regardez, il y a peut-être cette possibilité, réfléchissez-y. Et je crois que c'est le but du métier de romancier.
Donc, il y a un peu de Cassandre en vous, alors.
Oui, il y a un peu, j'assume, mais mon but, c'est d'élargir les consciences. Mmh. Après, comprenne qui pourra et agisse qui voudra, mais c'est sûr, c'est pas juste une petite histoire comme ça pour égayer. Ouais. C'est fait pour que les gens soient alertés, soient avertis, ne puissent pas dire j'ai jamais pensé que ça pourra se passer. Ouais. Ils l'auront peut-être entrevu dans le miroir de Cassandre, ils l'auront peut-être entrevu dans les autres romans. Mais il y a un autre roman qui s'appelle Papillon des étoiles, dans lequel je raconte une sorte d'arche de Noé où on lancerait un vaisseau spatial pour aller créer une nouvelle humanité sur notre planète. Et je crois que ça, c'est une vraie prophétie qui se produira. Je ne sais pas quand, mais un jour, on créera un vaisseau qui ira ensemencer notre planète.
Vous êtes plutôt optimiste ou plutôt inquiet par rapport à l'avenir?
Pessimiste sur le court terme et optimiste sur le long terme. Je crois que toutes les erreurs qu'on voit surgir tous les matins aux actualités, que ce soit la pollution, le terrorisme, la bêtise répandue sur la planète, on va pas tout d'un coup la freiner, on va aller au bout de ces erreurs, on va en payer un prix très très lourd, et après on comprendra ce qui s'est passé pour la Première Guerre mondiale, c'est ce qui s'est passé pour la Deuxième Guerre mondiale. Chaque fois on a dit plus jamais ça, on a refait ça, on s'est pris un grand pain dans la gueule, et là on a dit peut-être qu'il faudrait réfléchir un peu. Alors l'idéal, ça serait qu'on réfléchisse avant de se prendre la grande baffe, ouais. Et comme ça, qu'on l'évite. Mais je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, j'écris pour qu'on l'évite.
Merci beaucoup, Bernard Werber. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre dernier, Le miroir de Cassandre, publié chez Albin Michel. Vous serez au Salon du Livre. On va presque y être en même temps. Moi, je vais y être cet après-midi, dès 1h30, pour les auditeurs qui voudront venir me jaser un petit peu. 1h30 au kiosque VLB. On va parler, bien sûr, de ce livre Heureux sans Dieu. Venez me voir. Ça me ferait grand plaisir de vous rencontrer. Pour les autres, je vous donne rendez-vous lundi matin, comme d'habitude, 10h. Passez un bon week-end.